Quand on parle d'étudiants, on a souvent l'image des 18-25 ans en plein master qui doivent passer des partiels et qui sont très stressés à l'idée d'avoir leur diplôme. Eh bien, il existe un autre type d'étudiant. Fréquence Mistral est allée à la rencontre de l'UTL, l'Université du Temps Libre du Pays Gapençais. Pour répondre à nos questions, Michel Vrina, président de l'UTL, et Bernard Liotin, membre du bureau et du conseil d'administration de l'UTL, sont tous les deux venus dans nos studios. Écoutons-les nous présenter cette université si particulière.
Alors l'Université du Temps Libre, c'est avant tout, pour savoir d'où on parle, c'est une association loi 1901, qui fonctionne donc comme toutes les associations 1901. Cette association, elle a un but, c'est d'offrir de la culture à tous. Notre public est souvent vu comme un public plus âgé, un public de seniors, c'est une réalité. Néanmoins, nous accueillons tout public, de tous âges, chacun peut y venir, sans prérequis. Nos enseignements sont divers, ils sont non diplômants. Il est possible de s'inscrire à un cours, plusieurs cours, chacun peut faire son marché dans l'offre que nous avons. Au-delà de cela, l'UTL, c'est un mouvement qui est national. Il y a des UTL sous un nom ou sous un autre, ça ne s'appelle pas forcément UTL, dans toute la France. Et nous sommes affiliés à une fédération qui s'appelle l'UFUTA, qui regroupe donc un certain nombre d'UTL dans toute la France. L'association, c'est aujourd'hui 750 adhérents. C'est un nombre qui est croissant, je dirais, de façon régulière depuis 2-3 ans. Il avait énormément diminué au moment du Covid, mais nous avons aujourd'hui réatteint les niveaux d'avant Covid et nous voyons le nombre d'adhérents croître d'environ 10% par an ces 2 ou 3 dernières années. Nous serons cette année probablement plus de 750 adhérents. Une petite précision, nous offrons des possibilités pour les gens éloignés du pôle de Gap, la possibilité d'assister à des cours en visioconférence. Et donc nous développons avec les mairies de ces différents territoires des conventions pour permettre à un certain nombre de personnes d'assister à une partie de nos cours. C'est quelque chose qui est important, cette notion de culture pour tous, pour plusieurs raisons. D'abord parce que sur un territoire où l'on exerce, on vient apporter évidemment du savoir, mais on vient aussi apporter du lien social, de la convivialité, des rapports entre les uns et les autres. Une vie locale. Et aujourd'hui, on sait que dans nos territoires, surtout dans nos territoires ruraux, cette vie locale est importante. Voilà un petit peu, si vous voulez, la globalité de ce que nous offrons.
Donc l'UTL, c'est d'abord proposer des cours, c'est l'essentiel de l'activité d'UTL, mais également en complément des conférences, organiser des voyages d'études. Si je reviens sur les cours, il y a une grande variété d'offres de cours qui est proposée, qui permet de toucher un public très large. C'est pas moins de 90 cours différents qui sont proposés tout au long de l'année scolaire. D'abord, les langues étrangères prennent une part importante, hein, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais également le russe, le japonais. Et ensuite, il y a tout le domaine des arts et des lettres, de la littérature, également tout ce qui touche aux sciences sociales et sciences humaines, qui aborde par exemple des thèmes comme la psychologie, l'histoire, la mythologie, la communication et la géopolitique. Et je citerai également parmi les domaines les sciences en astrophysique, en astronomie. Il y a également des ateliers qui se développent de plus en plus, des ateliers arts et loisirs. Et également un autre domaine qui attire beaucoup de gens, ce sont les ateliers de santé et de bien-être. Et enfin, un dernier domaine qui est l'informatique. Et l'informatique, donc, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, en abordant également tout le domaine des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est depuis 30 ans, puisqu'on ne l'a peut-être pas souligné, mais c'est depuis 30 ans que l'UTL existe et qu'elle propose des cours dans tous ces domaines, quoi.
Parmi les valeurs chères à l'UTL, du moins l'UTL du pays Gapençais, il y a le partage des connaissances, le partage de la curiosité et surtout sans discrimination à l'entrée. Michel Vrina, président de l'UTL, développe également l'importance que peut avoir ce partage chez les populations plus âgées.
Ce sont des choses qui sont importantes, dont on se rend compte dans une période où les populations sont vieillissantes. C'est la démographie qui veut ça. Chacun sait bien qu'il est important pour se maintenir en forme, pour maintenir ses compétences, pour éloigner un certain nombre de maladies dégénératives, qu'il faut faire travailler son cerveau, ses compétences, ses connaissances. Et nous essayons de participer dans notre domaine à cela. C'est important, c'est d'ailleurs reconnu par les pouvoirs publics au travers d'un certain nombre de lois sur l'adaptation de la société au grand âge. Nous avons donc dans ce cadre-là, l'UFUTA, donc notre fédération, a signé il y a maintenant une petite dizaine d'années une convention qui reconnaît ce rôle aux universités du temps libre et qui appelle les acteurs publics à nous accompagner, à nous aider dans le développement de notre action.
Bien qu'elle soit ouverte à toutes et tous, sans distinction, le public de l'UTL, vous l'aurez compris, est essentiellement retraité. Toucher d'autres publics est malgré tout l'une des préoccupations importantes du bureau.
Ça reste limité, mais on arrive à toucher d'autres publics au travers d'actions spécifiques, en particulier orientées vers l'informatique. Nous avons par exemple des actions en commun avec des collèges ou des lycées de la région. Et puis nous nous interrogeons sur la possibilité que nous pourrions avoir d'avoir des cours sur des horaires qui correspondent mieux à la réalité des personnes actives. Aujourd'hui, nous sommes limités par ce que nous permet, ce que nous offrent les locaux de l'université, qui, eux, sont fermés hors des périodes d'ouverture scolaire.
Bien sûr. Monsieur Liotin, vous vouliez réagir?
C'est à peu près 10% de l'effectif, donc d'adhérents de l'UTL, qui ne sont pas des gens qui ont encore atteint l'âge de la retraite, bon, parce qu'ils arrivent à trouver dans leur emploi du temps de la disponibilité pour assister aux cours. Mais il y a une demande, effectivement, il y a une demande très forte pour pouvoir développer des cours en soirée et on ne peut pas le faire par les contraintes liées à l'occupation des locaux actuels à l'université. Quoi. Les conférences, par contre, ces conférences se tiennent en fin d'après-midi, en général vers 18h, et on arrive à tenir une vingtaine de conférences dans l'année. Alors ces conférences ne sont pas réservées aux adhérents d'UTL, ces conférences sont ouvertes à tout public, n'importe qui peut participer.
Comme vient de le dire Bernard Liotin, les conférences sont ouvertes à tous les publics. Elles sont en accès gratuit pour les adhérents de l'UTL et les étudiants, et autrement, l'accès est à 5€ par personne, par conférence. Les cours à l'année, eux, sont réservés aux adhérents de l'UTL. Qu'en est-il des enseignants de l'UTL ? Qui sont-ils et elles ?
On a 3 types d'enseignants à l'UTL. Il y a des bénévoles qui acceptent de donner leur temps et surtout de partager leurs connaissances avec plaisir à d'autres adhérents. Il y a des prestataires qui sont auto-entrepreneurs. Et puis, il y a quelques salariés aussi qui sont salariés de l'UTL. Donc, c'est une quarantaine d'enseignants qui délivrent l'ensemble de ces cours.
Allons jeter un coup d'oreille à l'une des conférences qui a été donnée en ce début d'année. C'est Christian Metz, enseignant à l'UTL, qui nous a accueillis avant sa conférence en octobre sur la bataille de Dien Bien Phu.
Voilà, donc nous sommes en 2024, ça ne vous aura pas échappé. Il y a 70 ans, la France quittait l'Indochine. Nous allons donc parler de cette France qui arrive en Indochine, cette France qui est en Indochine.
Christian Metz, je donne des cours de géopolitique à l'Université du Temps Libre depuis une vingtaine d'années et j'y éprouve beaucoup de plaisir. Et je pense que les gens qui sont en cours éprouvent aussi du plaisir puisque nous faisons ce cours 3 fois par semaine. Il y a un programme très précis, nous suivons l'actualité. Alors, pour un exemple, nous avons commencé le premier cours de l'année. J'ai fait une présentation et une revue de tout ce qui était les dessous et les non-dits du Hezbollah. Ensuite, la Hongrie a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Donc, nous avons fait une présentation de la Hongrie. Et là, je viens de terminer un cours sur le nucléaire civil, puisque Flamanville est en train de se remettre en route tout doucement. Donc nous essayons de suivre le contexte actuel politique ou géopolitique.
Alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvé du coup à donner des cours de géopolitique ici à l'UTL ?
Moi, c'est une longue histoire. J'ai fait un stage aux États-Unis où nous avions des conférences d'un niveau très intéressant. Quand je suis rentré en France, j'ai demandé à passer un DEA en sciences politiques. J'étais à Strasbourg à l'époque. Donc j'ai donc passé ce DEA en sciences politiques. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai donné d'abord quelques conférences et puis ensuite j'ai proposé de faire un cours de géopolitique. Ça a d'abord été une fois par semaine, ensuite deux fois par semaine et là nous en sommes à trois fois par semaine pour le même cours.
Parce qu'il y a du coup un public, votre cours a du succès si je comprends bien. Et qui sont les gens que vous voyez assister à ce cours ?
Il y a deux personnes qui assistent au cours. Il y a ceux qui sont à ce qu'on appelle le présentiel, donc qui viennent le mardi, le mercredi ou le jeudi assister à un cours. Et il y a une trentaine de personnes qui suivent le même cours, mais en visio. Nous avons des auditeurs qui sont à Pont-du-Fossé, nous en avons à Orcières-Merlette, nous en avons qui viennent de Corps. Voilà, donc et ça donne en présentiel, il y a 160 et quelques personnes, et à distance, il y en a une trentaine, donc il y a environ 200 personnes inscrites au cours.
Et est-ce que c'est des gens qui connaissent déjà, qui sont déjà sensibilisés au sujet géopolitique ou est-ce qu'il y a des néophytes complets qui viennent découvrir justement ?
C'est fait de façon extrêmement simple. Les gens qui n'ont jamais fait d'études ou qui n'ont jamais fait d'études politiques ou de géographie ou d'histoire, ils trouvent tout à fait leur compte.
Et là, ce soir, vous allez nous parler des 70 ans de la bataille de Dien Bien Phu.
Pas uniquement, je vais présenter la France en Indochine, comment nous y sommes arrivés, ce que nous avons fait. Je vais parler de la guerre d'Indo, bien sûr, et puis quelques mots sur la bataille de Dien Bien Phu, bon, plus que quelques mots, et nous terminerons par les conséquences de la perte de cette bataille, dont toutes les conséquences politiques pour la France. Ça a été la fin de la perle de l'Empire, puisque c'est comme ça que l'Indochine était nommée, la perle de l'Empire. Et puis, il y a eu des conséquences tout à fait particulières en Inde, par exemple.
Est-ce qu'il y a une volonté particulière de votre part quand vous avez décidé de donner des cours à l'Université du Temps Libre ? Est-ce que vous aviez envie de rendre ces connaissances accessibles ? Peut-être d'éveiller aussi des questionnements, des choses comme ça ?
Le premier cours que je fais en chaque début d'année universitaire, je fais une présentation du cours et je termine par une diapositive. À quoi sert un cours de géopolitique ? À regarder la télévision en toute indépendance d'esprit. Donc j'explique aux gens que le but de ce cours, ce n'est pas de dire qui est bon et qui est méchant, qui fait bien et qui ne fait pas bien. Simplement, nous jetons sur la table toutes les données géographiques, historiques, économiques qui expliquent la situation, qui essaient de comprendre les décisions politiques du moment. Et ensuite, chacun agit en fonction de son ressenti pour analyser avec le plus d'éléments possibles et impartiaux la situation actuelle.
Il est passionnant. Il est passionnant. Il fait de la géopolitique et il a présenté ça sous la forme d'une géopolitique avec des mouvements historiques importants, quoi. Et pas forcément dans le détail point de la bataille, quoi. Les interventions, comment ça se passait. Oui, c'était passionnant, quoi. Voilà.
Vous assistez souvent à des conférences ?
Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive, oui.
Ah ben, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante et détaillée, c'est-à-dire qu'on a eu un petit peu la chronologie des événements dans le détail, et donc ça permet de bien comprendre effectivement les enjeux de l'époque sur le plan géopolitique et militaire. Voilà, donc j'ai particulièrement apprécié effectivement la qualité de l'intervenant qui est très documentée. Je viens de temps en temps, j'ai plaisir à venir y assister quand c'est possible pour moi au niveau de mon emploi du temps.
J'ai trouvé que c'était une conférence très circonstanciée, avec beaucoup de dates et qui permet d'avoir une approche détaillée de la façon dont effectivement cette bataille a pu se dérouler. Au niveau de l'UTL, ben, je suis des cours de géopolitique, donc c'est vrai que lorsqu'il y a des conférences, ben, j'essaie effectivement d'y participer dans la mesure du possible.
De retour dans nos studios, avant de parler des défis que traverse l'UTL, Michel Vrina nous parle des deux salariées permanentes, piliers de l'Université du Temps Libre du Pays Gapençais.
Je ne voudrais pas quand même qu'on termine la première partie sans évoquer les deux salariées permanentes que nous avons à l'UTL, qui sont, je dirais, la cheville ouvrière de l'association, qui sont là pour accueillir en permanence nos adhérents, pour répondre aux questions, pour être au téléphone. Elles sont naturellement importantes dans le dispositif dont nous avons parlé, donc ne les oublions pas, ce serait une erreur. Hey.
L'UTL, bien qu'il s'agisse d'une machine bien huilée, rencontre cette année des difficultés inédites, en particulier concernant ses locaux.
Nous avons appris que Aix-Marseille Université, qui possède les locaux que nous occupons au sein du pôle universitaire de Gap, souhaitait récupérer ces locaux et voulait mettre fin à la convention qui nous liait à eux depuis 30 ans, donc depuis la création de l'UTL. Alors ça a été pour nous un peu un coup de tonnerre, hein, bon, parce que nous occupons des locaux qui sont importants, nous occupons 250 mètres carrés de locaux, et nous les occupons de façon quasi permanente.
Bien évidemment, l'équipe n'est pas restée les bras croisés face à ça.
Nous avons essayé et réussi dans un premier temps de mobiliser nos adhérents. Nous avons mobilisé l'ensemble du monde politique local qui nous a vraiment bien accompagnés, le maire de Gap, le président du département, les députés, le sénateur, etc., pour essayer de peser sur le président de l'Université d'Aix-Marseille pour l'inviter à reconsidérer cette position et pour essayer de trouver ensemble des solutions qui permettent à la fois à Aix-Marseille Université de développer ses projets et donc le besoin de locaux qui va avec et nos propres besoins. Et voilà. Bon. Grâce à cette mobilisation, nous avons rencontré en mars, je crois, de l'année dernière, le président Berton. Bon, dans un échange qu'on a pensé pouvoir être positif. Alors, ça ne s'est pas tout à fait déroulé comme on l'imaginait en sortant de cette réunion. Bon, nous avons eu quand même, et il faut le reconnaître et remercier Aix-Marseille pour cela, nous avons eu le prolongement d'une année de possibilité d'occupation de nos locaux. Donc, nous devions quitter en juin 2024. Nous pouvons y rester jusqu'en août 2025. Néanmoins, au-delà de ça, rien n'est assuré. Aix-Marseille Université nous propose aujourd'hui une convention pour une année, bon, qui par un certain nombre de ces termes, nous paraît difficilement acceptable. Donc, on essaye de continuer à négocier avec Aix-Marseille Université pour voir comment on pourrait arriver à une convention qui soit un peu respectueuse des deux parties. Ça n'est pas une tâche facile. Et aujourd'hui, l'issue de cette négociation est loin d'être certaine. Je pense qu'elle sera très difficile à obtenir. Bon. Néanmoins, nous restons, nous, ouverts à toute discussion et négociation avec l'UTL, ne serait-ce que parce que, si nous devons partir, les solutions sont très rares et sont de toute manière pas immédiatement accessibles. Ces solutions vont nécessiter des travaux, des investissements, des choses comme ça. Et donc, il y aura probablement à essayer de trouver des modes de fonctionnement avec l'UTL pour que nous puissions rester au moins encore une année, voire deux de plus, même si nous partons. Le départ dans l'immédiat, à la fin de l'année, sans solution de rechange, c'est ce que nous essayons absolument d'éviter parce que c'est de façon à peu près inéluctable un problème dont l'UTL ne se relèverait pas. Donc, nous cherchons de nouveaux locaux, je dirais avec beaucoup d'énergie. Ça consomme énormément de temps et d'implication de tous les membres du conseil d'administration et du bureau.
D'abord, notre souhait, c'est de ne pas trop s'éloigner du centre de Gap puisque on trouvera difficilement un endroit aussi bien placé que celui actuel qui est dans les locaux de l'université. Alors, il se trouve aussi qu'actuellement, on paye un loyer qui n'est pas le loyer marché, puisque ce que l'on paye à l'université, c'est une compensation sur des frais de gestion et des frais d'entretien des locaux. Ce n'est pas un loyer comme on sera amené à le payer si un loyer au cours du marché immobilier, si on est amené à occuper des salles qu'on va louer dans Gap. Il y a quelques salles, deux grandes salles, parce qu'il nous faut à peu près 250 mètres carrés un minimum, mais quand on veut les aménager pour pouvoir organiser plusieurs salles, notamment 4 ou 5 salles, des bureaux d'accueil, quand on veut que ces locaux soient accessibles par des personnes à mobilité réduite, ça suppose donc des aménagements. Et souvent, c'est des ascenseurs qu'il faut installer. Donc tout ça, c'est des frais très importants et que nos ressources propres ne peuvent pas assumer. Donc on peut les engager que si on a le soutien des pouvoirs publics pour pouvoir financer. On étudie aussi une solution avec les locaux de l'AFPA, mais qui sont un peu excentrés par rapport au centre-ville. Donc, on risque de perdre quelques adhérents qui auront peut-être du mal à se déplacer jusque là-bas. Donc, où là, les investissements seront un peu moins importants. Donc, on continue à explorer toutes ces solutions. Donc, ceci pour vous montrer qu'on est bien dans l'esprit de rechercher une solution. On comprend que l'université ait besoin de récupérer des locaux pour permettre d'étendre, elle, son offre de cours et de formation, surtout auprès des jeunes. Donc, on est bien conscient de tout ça, mais il nous faut un peu de temps pour trouver la solution qui soit satisfaisante et les aides financières qui iront avec.
Tout à fait, et peut-être même les aménagements que vous évoquiez.
Et les travaux qui nécessiteront, effectivement, après avoir obtenu les financements, il faudra engager des travaux qui prendront également du temps.
Justement, ça fait plus d'un an que le sujet est soulevé. Sans visibilité, c'est l'incertitude.
Ce que nous dit aujourd'hui AMU, c'est bah, écoutez, passez une année, puis si ça se passe bien, on verra si on peut vous prolonger d'une année. Ça n'est malheureusement pas... Enfin, je veux dire, l'UTL, c'est quand même une grosse machine. Hein, 40 enseignants, 700 adhérents, 90 cours à organiser, près de 1700 heures de cours dans l'année. Vous ne passez pas du jour au lendemain en disant, tiens, ben, on va faire ça ici, machin. Enfin, bon, ça demande toute une logistique. Cette logistique, elle se prépare à partir de janvier-février pour l'année scolaire d'après. Sur des bases aussi floues et aussi incertaines, et sur lesquelles nous n'avons en réalité aucune prise. Enfin, c'est très difficile d'engager quelque chose. Donc, il nous faut vraiment travailler à cette recherche de locaux. Il nous faut vraiment mobiliser nos adhérents. Il faut vraiment aussi que nous soyons conscients, nous, UTL, et donc l'ensemble de nos adhérents, que quelle que soit la solution qui sera choisie, elle passera par un effort financier de nos adhérents. Oui, même si les pouvoirs publics nous aident, même si y aura un effort de nos adhérents, c'est probablement le coût de la culture, rien n'est gratuit. Je le dis aisément à ce micro, il faudra les convaincre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette recherche, nous sommes dans ce travail. C'est un travail important, dense. Nous espérons vraiment, nous avons quelques signes plutôt positifs, mais nous espérons vraiment que nous serons suivis par M. le maire de Gap, par M. le président du conseil départemental, et par d'autres éventuellement. Hein, bon, je veux dire, toute bonne volonté est la bienvenue, le mécénat, enfin voilà, donc... On est en train d'essayer de construire ces solutions. Les ressources humaines de la gouvernance sont limitées, comme dans beaucoup d'associations. Et donc, ce type de choses est difficile à gérer. Il faut beaucoup d'énergie et beaucoup d'allant pour essayer de trouver des solutions. Nous y attelons.
Vous venez de parler du fait que l'année s'organise en janvier pour une rentrée en septembre. Comment est-ce que vous envisagez les choses là, à cette date ?
Il y a toute une première partie qu'on va mener, à la limite sans même savoir exactement, enfin, si on le sait avant, ce sera parfait, mais même si on ne sait pas exactement quelle sera la solution pour l'année prochaine, il y a toute une partie qu'on peut mener de façon, sans avoir cette perspective clairement tracée, c'est savoir quel cours on offrira, rechercher les enseignants dans des nouvelles matières que nous voudrions développer, s'assurer que les cours qui sont donnés aujourd'hui conviennent bien à l'attente des uns et des autres, ajuster s'il y a des problèmes. Enfin voilà, tout ce travail sur la programmation qui va aller jusqu'à mai à peu près, hein, et bon, on va la mener avec la même énergie. On a un responsable des enseignants qui consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, Robert Doldourian, et ce travail va se faire. Et nous pensons que nous allons pouvoir préparer et imaginer un programme de cours pour 2025-2026 tout aussi attrayant et tout aussi alléchant que les années précédentes. C'est à partir de mai qu'il faudra commencer un petit peu à avoir fixé les choses, à avoir des perspectives un peu plus claires pour savoir comment on va pouvoir matériellement mettre en place ça, de façon à ce que en juin-juillet, quand on commence à offrir notre programme aux adhérents, on puisse un peu leur dire où ça va se passer, comment ça va se passer, sur quelle base d'horaire ça va se passer. Il y a quand même encore un petit peu de temps, mais enfin, le temps est court et il y a urgence.
Il faut qu'on soit prêt au 1er juin de l'année prochaine pour engager l'année scolaire suivante. Ça veut dire qu'au 1er juin, il faut qu'on ait connaissance des disponibilités de chacun des enseignants, une fois qu'on aura fait la liste des cours qu'on veut proposer, qu'on ait pu répartir dans des salles et s'assurer qu'il n'y a pas un chevauchement d'occupation des salles. Donc, il faut qu'on ait un planning d'occupation des salles établi à partir du 1er juin. À cette date-là, il faut nécessairement savoir où est-ce qu'on va atterrir pour pouvoir offrir ces cours, quoi.
Comment Bernard Liotin, membre du bureau de l'UTL, vit-il les choses ?
On a connu plusieurs périodes j'ai connu plusieurs périodes dans ces 11 années. C'est la première fois quand même qu'on est face à un tel mur, enfin, à un tel défi. Avant, c'était des problèmes d'un cours qu'il fallait remplacer. Enfin, on raisonnait un peu à la marge avec la sécurité des locaux. C'est-à-dire qu'on savait dans quel cadre on allait pouvoir offrir les services qu'on voulait offrir. Là, on est vraiment dans l'incertitude, parce que, comme le disait Michel, si on ne trouve rien, on va être obligé d'interrompre les cours à l'UTL. Et alors, on pourra peut-être les reprendre un jour, mais on sent bien que remettre sur pied quelque chose d'équivalent à l'UTL, ça va être très, très compliqué, quoi.
La possibilité d'une absence de l'UTL sur le territoire gapençais semble impensable pour les membres de l'association. Non seulement les adhérents et adhérentes sont dans l'attente de connaître le programme des années suivantes, au sein d'une structure qui fait partie des rares endroits avec ce type d'offre, mais qui plus est, le sujet de proposer une offre culturelle n'est pas la seule préoccupation pour les membres du bureau.
On a vu que 90% de la population adhérente à l'UTL était retraitée. C'est des personnes qui ont besoin de se retrouver quelque part. Et si en plus, ils se retrouvent en partageant, en ayant des apports de connaissances, c'est parfait, quoi. Donc, c'est du lien social aussi.
Pour finir, M. Vrina évoque le renouvellement du conseil d'administration de l'UTL.
Nous avons une assemblée générale chaque année. Notre prochaine assemblée générale a lieu le 6 décembre. C'est donc à ce moment-là que vont être élus de nouveaux administrateurs. Alors, pas la totalité, mais une grosse partie de ces administrateurs vont être à renouveler. Je ne peux que faire un appel auprès de nos adhérents. Une association, ça a bien des avantages. C'est une structure extrêmement efficace pour faire vivre tout l'associatif de notre pays. Mais ça a une contrepartie. Ça ne vit que si les adhérents s'engagent pour leur association.
Oui, parce que si vous ne pouvez pas renouveler, j'imagine, le conseil d'administration, ça risque de s'ajouter à des défis.
Ah ben, s'il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a plus vraiment d'association.
Non, mais je pense que moi, je suis de caractère optimiste. Et je pense qu'on va trouver des solutions pour l'UTL. Donc, vu l'énergie qu'on déploie pour en trouver, ça va forcément payer. Et puis, je pense que les élus, comme le dit Michel, ne peuvent pas être insensibles à ce que représente l'UTL comme apport culturel sur un département qui est quand même loin des lieux de culture comme Aix-Marseille ou Grenoble, quoi.
Merci beaucoup à Michel Vrina, Bernard Liotin et Christian Metz d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'Université du Temps Libre du Pays Gapençais sur leur site internet utlgap.org. It's a lesson learned. If you play with fire, maybe you will burn. I guess it's a lesson learned. If you play with fire, you'll probably burn. Won't you teach it to me?